Bonjour et bienvenue. Alors, actualité importante. Le prix Nobel d'économie 2025 vient d'être attribué.
Oui, à Philippe Agion, Peter Howitt et Joël Mocker.
Exactement. Pour leurs travaux sur la croissance tirée par l'innovation. Et au cœur de leur pensée, il y a ce concept, la destruction créatrice.
Un concept qui résonne particulièrement aujourd'hui au Maroc et c'est le sujet de notre source principale, le magazine Eco-Business du 20 octobre 2025.
Tout à fait. Une exploration en profondeur de ce que ça signifie pour le Maroc. C'est juste une théorie économique ou une nécessité urgente?
C'est la question que pose le magazine. On va regarder ensemble les obstacles, les pistes de solutions et puis aussi cette dimension essentielle de l'équité sociale.
Notre objectif, c'est donc de comprendre les défis, les opportunités pour le Maroc s'il embrasse vraiment cette idée d'innovation comme moteur. Les implications concrètes, quoi.
Pour les entreprises, les politiques publiques, pour tout le monde en fait.
Alors, allons-y, cette fameuse destruction créatrice, qu'est-ce que c'est, simplement ?
L'idée de base, popularisée par Schumpeter et puis affinée par nos lauréats, c'est que l'innovation, ça ne fait pas qu'ajouter.
Ah, ça remplace aussi.
Voilà, ça bouscule, ça remplace l'ancien. Les vieilles technologies, les modèles économiques qui sont dépassés, même les entreprises bien installées. Pour créer de la nouvelle valeur.
L'éditorial d'Eco-Business dit même que c'est le cœur battant du progrès.
C'est une belle image. Et le Nobel y récompense justement ses travaux sur la croissance endogène, celle qui vient de l'intérieur, par l'innovation. Et il souligne un point crucial.
Les institutions et...
Exactement. Le rôle clé des institutions. Pour que ce processus, qui peut être un peu difficile à court terme, soit bénéfique à long terme, il faut des conditions très claires.
Comme quoi, par exemple ?
Une concurrence saine, ouverte. Des moyens pour financer la recherche, l'innovation risquée. Et puis, bien sûr, protéger les innovateurs, leur propriété intellectuelle.
D'accord.
Et la source souligne bien le message politique derrière tout ça. L'ouverture, les politiques pro-innovation, c'est plus efficace que le protectionnisme défensif.
Et c'est là, justement, que ça semble coincer un peu au Maroc, si on lit l'article « Destruction créatrice à la marocaine », où restent les verrous. Il identifie plusieurs freins. Le premier, c'est ça, les rentes protégées, la concurrence limitée dans certains secteurs.
Oui, des secteurs comme la distribution, les infrastructures, certaines industries ou des acteurs historiques seraient, disons, bien ancrés.
Ce qui rend difficile l'arrivée de nouveaux acteurs innovants. L'exemple donné, c'est une PME dans les moteurs électriques qui galère face aux barrières fournisseurs, homologations.
C'est très parlant, oui. Et ce n'est pas le seul verrou.
Non, il y a aussi les lenteurs administratives, le fameux dernier kilomètre.
Ah oui, celui qui décourage. Les autorisations environnementales, les agréments R&D, les papiers pour l'export, la protection de la propriété intellectuelle.
Ça prend un temps fou apparemment. Plusieurs interlocuteurs, des procédures pas toujours claires.
L'article donne l'exemple d'une start-up Deep Tech qui exporte un capteur IA.
Oui.
Et qui doit jongler avec 5 ministères ou agences différentes. Imaginez la complexité.
Ça donne pas envie d'innover, effectivement. Et puis il y a le financement.
Le financement, le nerf de la guerre, considéré comme trop timide, les banques, un peu frileuses face aux risques techno.
Le capital risque pas assez développé pour l'amorçage.
C'est ça. Et les fonds publics, parfois compliqués à obtenir, avec des conditions un peu lourdes.
Et enfin, la propriété intellectuelle. Pas assez valorisée, pas assez protégée.
Beaucoup d'innovations, surtout informelles ou dans les PME, qui ne sont pas brevetées par manque d'argent, de connaissances ou parce que c'est trop complexe.
Et du coup ?
Du coup, la valeur ajoutée, elle peut être captée par d'autres, souvent des acteurs étrangers mieux armés juridiquement.
Tous ces blocages sont donc assez critiques.
Ils sont critiques parce qu'ils touchent directement aux conditions nécessaires à l'innovation, celles mises en lumière par Agion et les autres.
L'éditorial utilise une image « Le Maroc connaîtrait le vocabulaire de l'innovation ».
Oui, les mots « start-up »,« hub africain », »,« transformation digitale », on les entend partout.
Mais pas la grammaire du risque.
C'est exactement ça. La culture qui accepte l'échec, qui finance le long terme, qui encourage à essayer. Rachid Boufous, cité dans la source, le dit autrement.
Qu'est-ce qu'il dit
Que le pays voudrait la nouveauté sans rupture, le changement sans désordre. Une sorte de contradiction, quoi.
Bon, le constat est assez clair. Quelles sont les pistes, alors, pour débloquer tout ça?
Les sources proposent un vrai changement de cap. Aller au-delà de la politique de l'offre classique. Les infrastructures... pour adopter une politique d'innovation systémique.
Pour atteindre la frontière technologique.
Voilà. Et le premier levier proposé est assez marquant.
C'est-à-dire ?
La création d'une ARPA Maroc.
Une ARPA. A-R-P-A.
Comme la DARPA américaine.
Sur ce modèle, oui.
Une agence de recherche à mission, indépendante, avec des moyens, pour financer des projets très ambitieux.
À haut risque, mais à fort impact potentiel.
Exactement. Dans des domaines clés, énergie renouvelable, eau, santé, agriculture. L'idée, c'est de provoquer des ruptures.
Intéressant. Mais une agence de plus, ça ne risque pas de rajouter de la lourdeur administrative, justement.
C'est le risque, bien sûr. La clé, ce serait son agilité, son indépendance, sa focalisation sur des missions précises, avec des objectifs clairs, une culture de l'expérimentation.
D'accord. Et à part cette agence ?
Renforcer massivement les liens entre la recherche, surtout les doctorants, et l'industrie.
Comment ?
Subventionner les thèses CIFRE, où le doctorant est en partie en entreprise. Pousser pour que les thèses débouchent sur des prototypes, des preuves de concept. Créer des écoles doctorales très connectées aux besoins des entreprises.
L'État pourrait aussi être un premier client pour l'innovation. Utiliser la commande publique.
Tout à fait. Lancer des appels à projets pour des solutions nouvelles. Tester un smart grid local, une solution IA pour les transports. Ça tire l'innovation par la demande.
Et bien sûr, continuer à développer le numérique, cloud souverain, haut débit partout et l'open data.
Ces données ouvertes, c'est la matière première pour beaucoup d'innovations dans les services, les transports, la santé.
Et plus concrètement encore, la source liste d'autres actions. Oui, un audit des réglementations pour chasser les barrières inutiles à la concurrence. Un guichet unique, Innovation Plus, Export, un fonds de capital patient public-privé pour le Deep Tech, un programme pour aider à breveter à bas coût, conditionner certains partenariats université-entreprise à une industrialisation locale.
On voit se dessiner une nouvelle posture pour l'État. Plus seulement équipementier, mais architecte.
Architecte de la trajectoire technologique ?
C'est ça. Il oriente, il incite, il prend des risques mesurés. Les textes parlent d'un virage mental nécessaire.
Et les bénéfices attendus, ce serait quoi ?
Une montée en gamme de l'économie. Passer de la sous-traitance au co-développement, voire au leadership dans certaines niches.
Ce qui veut dire des emplois plus qualifiés, mieux payés.
Oui, et une économie plus résiliente, capable d'innover par elle-même face au choc.
Bon, ça c'est le côté positif. Mais la destruction créatrice, ça veut aussi dire des perdants, hein ?
Effectivement. Des activités qui déclinent, des emplois qui disparaissent ou se transforment radicalement.
Ça peut créer des tensions sociales, des inégalités. La source prévient, l'innovation sinon sera perçue comme une agression. Comment on gère ça ?
C'est le point absolument fondamental. Sans un accompagnement social très fort, ça ne passera pas. Le risque de blocage politique et social est trop grand.
Alors, quelles sont les idées pour cette justice transitionnelle, comme l'appelle l'article ?
Il y a plusieurs mécanismes. D'abord, une sorte d'assurance reconversion technologique.
C'est-à-dire ?
Une indemnisation pour les salariés dont l'emploi est menacé par une innovation de rupture, comme l'automatisation. Mais...
Il y a un mais.
Oui, c'est crucial. Couplé obligatoirement à une formation qualifiante vers les métiers d'avenir et cofinancé par les entreprises qui innovent et par l'État.
Un peu comme la flexi-sécurité danoise, mais adaptée à la tech.
On peut y voir une inspiration, oui. Une autre idée, des centres régionaux de reconversion.
Des mini-campus de formation.
Voilà, des structures légères, dans les zones les plus touchées, pour acquérir vite des compétences demandées. Codage, maintenance de robots, data science, métier de l'énergie verte.
Et le rôle des entreprises qui automatisent ?
On évoque des partenariats plus engageants. Une entreprise qui automatise fortement dans une région pourrait avoir une obligation de réinvestir une partie des gains de productivité.
Où ça ?
Dans la création d'activités nouvelles ou la formation, soit dans la même région, soit dans une autre zone fragile. L'article donne un exemple.
Ah oui, l'usine auto très moderne à Casa qui financerait des start-up à Tanger ou Oujda. Une sorte de péréquation par l'innovation.
C'est l'idée. Et puis il y a la fiscalité, bien sûr.
Taxer les super profits de l'innovation.
Une partie, oui. Taxer les gains exceptionnels pour financer la reconversion. Mais attention, il faut un calibrage très fin pour ne pas tuer l'incitation à innover au départ.
Trouver le bon équilibre.
Exactement. Et enfin, des garde-fous démocratiques.
C'est-à-dire ?
S'assurer que les politiques de transition sont équitables, territoire, genre, génération. Et pourquoi pas impliquer des comités citoyens pour suivre et évaluer. Pour la légitimité.
Donc, le message clé ici, c'est que l'équité sociale, ce n'est pas un coût, c'est un investissement.
C'est un investissement indispensable pour que la transformation soit acceptée et durable. Pour reprendre la formule de Boufoucès, la productivité doit devenir une promesse de dignité, non une source d'injustice.
C'est très fort comme idée, l'acceptabilité sociale comme clé de voûte.
C'est ça. Pour que la destruction créatrice soit vue comme une renaissance possible et non comme une menace.
Bien. Pendant qu'on mène cette réflexion de fond, l'économie marocaine, elle, continue son chemin. EcoBusiness parle aussi de réglages fins actuels. Le PLF 2026, par exemple?
Oui, le projet de loi de finances. Il mettrait la priorité sur la santé et l'éducation. Le social utile.
C'est cohérent avec l'idée d'innovation.
Complètement. Le capital humain, c'est la base. Des gens formés, en bonne santé, adaptables. C'est une condition sine qua non.
Et ce PLF parlerait aussi de ciblage d'inflation?
Oui, que Banque Maghreb ou la BAM s'engage à maintenir l'inflation dans une fourchette précise autour de 2-3% d'ici fin 2026, début 2027.
L'objectif, c'est la stabilité macroéconomique.
Exactement. Un environnement stable, prévisible, c'est bon pour l'investissement à long terme, donc pour l'innovation. D'ailleurs, l'inflation actuelle est très basse, prévue à 1% pour 2025.
Et la BAM maintient son taux directeur à 2,25%.
Pour l'instant, oui. Donc, on stabilise et on investit dans les compétences. Ce sont les fondations.
Mais il faut aussi les outils, les infrastructures. La 5G arrive dans 8 villes en novembre. C'est important, non?
Ça peut l'être, oui. Mais le vrai enjeu, c'est moins pour le grand public que pour l'industrie. Le B2B.
Les usines connectées, les ports.
Voilà, la logistique, l'agriculture de précision. La 5G peut vraiment booster la productivité et permettre de nouveaux services. C'est une infrastructure substrat, comme on disait.
Son succès dépendra de l'adoption par les entreprises.
Tout à fait. Et d'ailleurs, le salon Logitaire 2025 a mis ça en avant. Connecter le rail, améliorer la performance des ports avec le numérique, digitaliser les flux, les verdir. On passe du béton à la performance.
Et l'énergie dans tout ça. L'article met en avant l'éolien.
Ah oui, l'éolien, avec Nareva en pointe, surtout dans le sud, c'est stratégique.
Pourquoi ?
Avoir une énergie abondante, décarbonée et pas chère, c'est un avantage énorme, surtout pour exporter vers l'Europe.
C'est un prérequis pour attirer les industries d'avenir.
Absolument. L'éolien, couplé au solaire, au stockage, l'enjeu c'est le mégawattheure compétitif pour les industriels, même s'il reste des défis. Le réseau, le contenu local, les procédures.
On voit bien comment tout ça s'emboîte. Capital humain, stabilité, infrastructure, énergie. Mais quid du risque? La note COFAS reste B. Stable, mais pas top.
La note B, ça reflète la résilience, mais aussi les points faibles. L'eau, certaines PME fragiles. EcoBusiness suggère que la note ne voit peut-être pas tout le potentiel de transformation lié aux grands projets, aux réformes.
Il faut mieux documenter les progrès?
Oui, pour rassurer les investisseurs, réduire le coût du financement et gérer les nouveaux risques aussi. L'article parle des cryptos.
Le récent vendredi noir sur ces marchés.
Oui, et les alertes du FSB sur les stablecoins notamment. Ça conforte l'approche marocaine jugée prudente. Interdiction pour l'instant, mais travaille sur un cadre légal, une sandbox pour tester.
Équilibrer protection et innovation maîtrisée.
C'est l'idée.
Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, le message des sources est assez clair, non? Le Nobel 2025 rappelle cet impératif d'innover.
Oui, et pour le Maroc, le défi, c'est de passer du principe à la réalité. Lever les blocages, la rente, l'administration, le financement du risque.
Et les pistes, elles sont ambitieuses. Une vraie politique d'innovation, volontariste, qui investit dans le savoir, la recherche risquée...
L'expérimentation. Mais, et c'est le point crucial des sources... Ça ne peut marcher que si c'est accompagné par une politique sociale tout aussi forte, une transition juste.
Pour construire l'adhésion collective, la conclusion de l'édito est forte. Besoin d'un électrochoc créatif et du courage collectif pour détruire ce qui bloque.
Et pour faire naître ce qui manque.
C'est ça. Rachid Boufous parle de renaissance possible si le pays ose croire en lui-même. Ça montre l'ampleur du changement, culturel aussi.
Comprendre tout ça, c'est donc essentiel pour voir où va le Maroc, les opportunités, mais aussi des tensions possibles.
Et les choix politiques qui devront être faits. Ce sont des enjeux majeurs.
Alors on laisse nos auditeurs avec une question, une réflexion pour aller plus loin. Le Maroc a des atouts, c'est indéniable. Sa jeunesse, ses infrastructures, sa stabilité. Mais les sources insistent sur cette peur de détruire, cette culture de la rente. Est-ce que ces freins culturels sont plus profonds que ce que les politiques économiques peuvent changer seules?
Bonne question. Quelle pourrait être l'étincelle sociale, politique, entrepreneuriale qui libérerait vraiment ce courage collectif, cet élan créatif dont parlent les textes pour oser cette renaissance?
Vaste question en effet. Elle nous rappelle que l'économie, au fond, c'est toujours une question de projet de société,